With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler ensemble de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de succès où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce format que j'apprécie tant pendant une heure, deux fois par mois. Cette semaine, je reçois Alexandre Lacroix qui est romancier, philosophe, patron de la rédaction de Philosophie Magazine et également cofondateur de l'école d'écriture Les Mots. Mais il est aussi, et ça c'est son plus gros métier, père de cinq enfants. Alexandre sort La naissance d'un père aux éditions Hilary. Il raconte dans ce roman témoignage de près de 500 pages sa paternité qui, comme il l'écrit, est la grande affaire de sa vie adulte. Son premier fils est né lorsqu'il avait 25 ans et son dernier quand il avait 42 ans. Et vous l'entendrez, il a été un père très impliqué. Il raconte qu'avoir autant d'enfants n'a jamais été un objectif de vie, simplement c'est arrivé, comme il l'écrit si bien. C'est un épisode d'Histoire de Daron un peu spécial, puisque pour la première fois, je savais déjà quasiment tout sur la paternité de mon invité, mais j'espère que comme moi, vous trouverez le point de vue d'Alexandre sur la paternité passionnant. Et au fait, si vous souhaitez vous procurer son livre, je vous mets des liens dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à passer par cela au moment de commander, ils me permettent de gagner un peu d'argent grâce à l'affiliation. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie d'Alexandre. On est avec Alexandre Lacroix. Salut Alexandre.
Salut.
Merci beaucoup de me recevoir. Je suis dans un exercice un peu particulier, comme je te le disais juste avant qu'on enregistre, par rapport à ce que je fais habituellement. C'est que habituellement, je reçois des darons qui ont a priori jamais raconté vraiment leur histoire et qui viennent me le raconter au micro. Alors toi, tu as tout raconté dans un bouquin qui fait quasiment 500 pages. Alors, je ne sais pas si c'est tout. C'est beaucoup de choses.
C'est jamais... Il est absolument impossible d'être exhaustif. C'est un livre... J'ai écrit un livre, donc La naissance d'un père, qui fait 500 pages, qui couvre 18 années de vie, d'expérience, de père, puisque j'ai 5 enfants. J'ai eu 5 enfants de 2 femmes différentes. C'était pas... Ma paternité n'était pas un projet de jeunesse. Moi, à la crise d'adolescence, j'étais quelqu'un d'un peu turbulent, très agité par la philosophie et par la découverte de Nietzsche. Et j'avais un ami avec qui on se disait comme ça Nietzschéen, on se revendiquait Nietzschéen. Et on avait passé une sorte de pacte ensemble. Le pacte était que si l'un de nous se laissait aller à perpétrer l'espèce humaine, donc à faire un enfant, l'autre lui mettrait un coup de poing dans la figure.
Okay.
En fait,
qui a perdu en premier?
Non, il a jamais eu d'enfant. Okay. il a jamais eu d'enfant et j'en ai eu 5. Non, c'est dire à quel point pour le jeune homme que j'étais, la paternité, la vie de famille, la domesticité, le foyer n'étaient pas attirants et les enfants sont arrivés dans un processus extrêmement dynamique, un processus d'amour, de vie, de désir, d'expérience. Ça n'était pas un plan. Voilà, j'avais pas un plan de vie qui serait d'être père de 5 enfants. J'étais pas du tout je n'ai pas de modèle familial traditionnaliste. Je ne viens pas d'une famille traditionnelle, mais d'une famille complètement, même pas recomposée et explosée, on va dire.
Ouais.
J'ai perdu mon père très jeune. Et je crois que c'est ça, en fait, pour moi, la matrice de cette expérience de la paternité, c'est que j'ai perdu mon père quand j'avais 11 ans.
Ton père s'est suicidé.
Et il s'est suicidé, il s'est tué, ouais, quand j'avais 11 ans. Et
ce qui est quand même un truc, je pense, un peu fondateur dans ton... Tu l'expliques
fondateur,
un peu.
Fondateur, bien sûr, bien sûr. Alors c'est là, en toile de fond, dans le livre, c'est fondateur de mon rapport à la paternité. Pendant l'adolescence, je dis qu'elle a été heurtée, un peu agitée, mais c'est vrai qu'il y avait ce deuil. Qui était un deuil violent, d'autant que j'ai découvert le corps, donc j'avais ces images qui me hantaient, enfin elles sont toujours là, mais j'ai un rapport apaisé avec ces images. Mais j'étais en quête du père, je l'ai été comme jeune homme, et puis ensuite, comme cette relation de filiation, cette relation père-fils me manquait, parce que j'avais une belle relation avec mon père, j'ai eu envie de la revivre, alors cette fois en occupant l'autre position, la position du père. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais 25 ans, j'en ai aujourd'hui 45. Et quand j'ai eu mon premier enfant, ça a été immédiatement merveilleux pour moi. C'est ça que je tiens d'abord à dire, c'est que j'ai pas du tout rejeté la grossesse ou l'idée d'être père. Au contraire, j'étais très heureux de cette grossesse, très heureux de cette naissance, et j'ai vraiment eu un sentiment d'émerveillement que m'a procuré dès l'accouchement, en fait, que je raconte dans mon livre.
Tu racontes avec. Ouais. Je pense que j'ai jamais lu. Un accouchement raconté de manière aussi vraie et aussi crue, parce qu'en fait tu expliques vraiment, alors en plus t'es vraiment un auteur qui sait manier les mots, hein, donc tu utilises les bons mots qui vont très bien avec les très bonnes émotions, tu le racontes comme un truc vraiment violent pour toi.
Alors violent, violent et
émotionnellement
doux, violent et doux, c'est-à-dire que là on touche à quelque chose d'intéressant en littérature, c'est que depuis quelques décennies, les hommes sont entrés dans les salles de naissance et les écrivains hommes écrivent beaucoup de romans autobiographiques, mais ils ne racontent pas ce qu'ils ont vu dans les salles de naissance. C'est-à-dire que, à ma connaissance, les pères qui... D'abord, les écrivains, les romanciers sont très pudiques sur leur propre paternité. Et ensuite, ces expériences extrêmement fondamentales dans une vie, enfin je veux dire, c'est pas rien d'assister à un accouchement, enfin c'est,
oui.
Pour ceux qui l'ont vécu, ça change une vie, ça remue, enfin je veux dire, et pour ceux qui ne l'ont pas vécu, ben attendez-vous à passer les 50e rugissant, quoi, c'est quand même, c'est le Cap Horn, hein. Il se passe quelque chose, on reste comme suspendu entre la vie et la mort, avec la magie d'un être qui pousse ses premiers cris, ou pas d'ailleurs, pas toujours, mais qui s'oxygène, dont la peau se rosit progressivement, parce que quand il sort du corps de la mère, quand il sort du ventre, il est une créature très aquatique, à la peau un peu grise, il est visqueux, il y a du sang, enfin, c'est quelque chose de très bouleversant. Or, les hommes ne mettent pas de mots là-dessus. Moi, j'ai constamment eu l'impression, en écrivant La naissance d'un père, d'aller poser des mots sur des zones de silence, d'essayer d'explorer des expériences sur lesquelles il y avait un silence, qui est dû sans doute à une sorte de retard sociologique ou je dirais plutôt à un retard de la littérature sur la société. La société a bougé, les pères sont rentrés dans les salles de naissance, ils donnent le biberon, ils se réveillent la nuit, ils accompagnent les enfants à l'école, ils participent aux premières lectures, aux jeux, mais ils ne parlent pas de ça. C'est la littérature, il y a un effet retard. Moi, j'ai vraiment voulu combler ce retard.
Tu le combles bien.
Ah oui. Ouais, bah merci. Mais c'était ça l'ambition du livre. J'ai toujours eu envie d'écrire ce livre pour l'écrire. Dès le début, en fait. Dès la première naissance. Pour l'écrire, j'ai seulement attendu que le cycle des naissances soit fini pour moi et que mon dernier enfant soit né. J'ai vraiment commencé à l'écrire 6 mois après la naissance de mon dernier enfant, c'est-à-dire à la moitié de l'année 2017. Voilà. Et donc, c'était un livre que je portais depuis longtemps. Pour moi, cette expérience de la paternité est très centrale pour des raisons qui s'expliquent aussi par le deuil. Et pour revenir à l'accouchement, évidemment, il était intéressant pour moi d'entrer dans beaucoup de détails. C'est un roman, donc c'est pas une théorie. Donc l'idée, c'est de rentrer dans beaucoup de détails. Il y a une petite pastille qu'on doit fixer, par exemple, avec un caoutchouc, une bande de caoutchouc sur le ventre de la mère pour enregistrer sur le monitoring, enfin comme une sorte de sismographe, le rythme et l'espacement des contractions dans l'attente de l'accouchement, mais qui a lieu à la maternité à partir du moment où les contractions importantes se déclenchent. Eh bien, cette petite pastille de plastique, tous ceux qui ont vécu un accouchement savent on est angoissé par rapport à cette pastille, parce que si la mère tousse, eh bien, tout d'un coup, le monitoring enregistre une secousse sismique comme si elle avait une contraction extraordinaire. Et puis la pastille tombe tout le temps, ça glisse, ça tient pas bien. Et donc, on se retrouve toujours avec un tracé sismographique, un tracé de monitoring qui a l'air faussé. Et on a l'impression, quand on est jeune parent et qu'on arrive là, qu'on s'est mal comporté parce que on a un affreux gribouillage qui doit être lu par les sages-femmes et qui va commander le moment où on va rentrer vraiment dans la salle de naissance et passer aux choses sérieuses. Alors, ces choses-là, de même que les mesures successives, de l'ouverture du col de l'utérus, les cris, l'arrivée de la douleur de la mère, j'ai voulu les décrire effectivement par le menu. C'est un roman, donc l'idée c'est que je donne tous les éléments les plus concrets pour que même quelqu'un qui ne connaisse pas cette expérience la vive par procuration à travers la description.
T'as ce truc où la sage-femme te demande d'aider ta compagne à respirer.
Non, c'est pire que ça. La sage-femme, à un moment, me dit « Aidez votre femme à pousser. »
Ah oui, à pousser.
Il vient « Aidez votre femme à pousser. » Alors là, on se sent un peu comme un gland. Hein. Je dois dire qu'on se sent... Comment on aide sa femme à pousser? Je raconte la scène, c'est assez cocasse, puisque je me suis dit, vu que ma femme était à ce moment-là penchée sur elle-même, un peu recroquevillée vers l'avant, que cette position devait être inconfortable pour elle, pour son bassin, son dos, et donc je me suis mis à la rabattre en arrière, enfin à rabattre son dos en arrière pour qu'elle soit mieux calée sur le fauteuil. Je me disais, bah, l'aider à pousser, c'est la mettre dans une position plus confortable. C'était la chose à ne pas faire. En fait, j'ai amplifié la douleur de la contraction. Après, je me suis dit qu'il valait mieux ne pas aider sa femme à pousser et ne pas intervenir. Et d'ailleurs, dans le même genre de non-interventionnisme, les choses ont un peu évolué. Je pense que une sorte d'étrange vision symbolique des choses a fait qu'on demande au père, c'était pas le cas en 2000, mais ensuite pour les autres naissances c'était le cas,
ouais.
On propose au père de sectionner lui-même le cordon ombilical. Et comme si, en fait, l'idée là c'est très symbolique ou psychanalytique, c'est l'idée que c'est son rôle. Il doit séparer la mère de l'enfant. Le père, et avec son autorité, sa présence, s'interpose dans une relation entre la mère et l'enfant qui est trop fusionnelle, ce genre d'idiotie. Ben, C'est un acte médical. Moi, j'ai jamais voulu couper le cordon. C'est-à-dire, on me présente un ciseau. Il est stérilisé, mais enfin, vous avez le corps de votre enfant avec ce cordon un peu blanchâtre ou passe des veines, mais qui est encore un peu palpitant. Et on vous demande d'intervenir sur le corps de votre enfant, c'est pas possible. Donc moi j'ai jamais fait, parce que je considère que c'est un acte médical et pas un acte symbolique. Mais effectivement, le rôle du père son efficacité ou son utilité sont sans doute pas évidentes pendant l'accouchement. Par contre, le rôle de l'accouchement, c'est que c'est un moment où on devient père. C'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est peut-être pour le père que c'est important en fait d'être là. C'est-à-dire, je suis pas sûr qu'il aide énormément la mère. Il peut aider un peu l'enfant parce que la mère est quand même KO après l'accouchement. Et par exemple, quand j'avais un peu plus d'expérience, on m'a pas laissé faire ça les premières fois, mais on m'a proposé, ce que je raconte aussi, de laver le nouveau-né. Quand on est un peu expérimenté, on peut le faire, le laver, l'habiller, on peut le faire avec des gestes prévenants, assez doux, c'est bien que ce soit fait, je trouve, par le père, par exemple, plutôt que par une sage-femme forcément le fera de manière professionnelle, mais peut-être plus froide ou en y mettant moins un amour moins grand. Donc là, il y a une utilité vis-à-vis de l'enfant. Vis-à-vis de la mère, l'utilité est très limitée, mais je dirais que l'importance de l'expérience, c'est une expérience initiatique, en fait. C'est-à-dire que il y a des expériences initiatiques dans l'existence, et assister à l'accouchement, c'est une expérience initiatique. Dans une initiation, vous traversez une phase de danger, et de l'autre côté de l'initiation, dans toute initiation, vous êtes métamorphosé. Vous êtes un autre, et là, vous êtes métamorphosé, vous êtes père.
Alors, tu racontes pendant toute la première partie la toute petite enfance, en fait, de ton premier fils. Vous vivez à Avignon, en fait. Vous décidez de partir vivre à Avignon. Vous n'avez pas vraiment beaucoup d'argent.
Non.
Et tu passes, à peu près la moitié de tes journées avec ton fiston.
Alors, c'est une période de ma vie particulière. On habitait à Avignon aussi pour des raisons économiques. À l'époque, c'était pas très cher. On avait un loyer très modique. À cette époque, entre 25 et 30 ans, j'étais pas vraiment rentré dans la vie active. J'étais écrivain à plein temps, donc romancier, essayiste. Je donnais quelques cours à Paris et ailleurs, à Sciences Po. Je pigeais ici et là dans les journaux, mais enfin, c'était un mode de vie extrêmement précaire. Ma compagne avait aussi une forme de précarité. Elle faisait de temps en temps des remplacements ou des vacations dans des lycées de philo, comme prof de philo, mais elle avait sa maîtrise à l'époque seulement. Donc on n'avait pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de sous. Une fois payé le loyer, il nous restait 500 euros par mois à peu près. Mais comme souvent les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, ça c'est un peu le pari faustien, on avait beaucoup de temps. C'est-à-dire que peu d'argent, mais beaucoup de temps. Alors, j'ai eu cette possibilité. C'était une contrainte, mais c'était aussi une chance incroyable de m'occuper de mon fils aîné, de ses 0 à ses 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à son entrée à l'école maternelle, à mi-temps, c'est-à-dire de son lever jusqu'à 13 heures à peu près. Après, je travaillais sur mes livres, je travaillais le soir, mais j'avais toutes les matinées avec lui. Alors ça a été une période du coup assez merveilleuse pour moi aussi, parce que j'ai vraiment j'ai appris à être père un peu en détail. C'est pour ça que j'ai pu écrire ce livre avec facilité aussi, parce que c'est pas une expérience fugace pour moi, la paternité. C'est-à-dire que j'ai vraiment changé, je pense, des dizaines de milliers de couches. J'ai vraiment été là, quoi. Pour les premiers pas, et ce que j'ai trouvé formidable à Avignon, où le climat le permettait, je suis un père n'est pas très capable de enfin, je m'ennuie dans les espaces clos avec les enfants. J'aime pas trop rester dans une chambre à jouer, même si je l'ai beaucoup fait, mais moi j'aime bien sortir. Et donc on a d'abord hanté complètement les parcs de la ville, et puis ensuite on est allé plus loin sur l'île de la Barthelasse. On s'est promené continuellement tous les deux. On s'est promené à l'île sur la Sorgue, on se promenait au cours de ces matinées. Et là je me suis rendu compte que le jeune enfant apporte beaucoup à l'adulte, parce que il vous fait remarquer des choses que vous ne voyez plus. Parce que le regard de l'adulte, c'est un regard blasé. C'est un regard où il y a peu de merveilleux. Et l'enfant, tout d'un coup, une tractopelle, des canards sur le Rhône, jeter du pain à des canards, aller voir un âne dans un champ, cueillir des cerises, je sais pas. Enfin, toutes ces petites choses-là que vous ne voyez même plus, en fait, il vous les fait remarquer. Et il vous rend le monde une deuxième fois. Il vous fait redécouvrir le monde par ses yeux. Par procuration, avec lui, vous redécouvrez le monde. Et tout d'un coup, les objets du quotidien et même la vie quotidienne prend une densité particulière. Il y a des gens qui vont chercher une expérience du présent en faisant des séances de méditation, pleine conscience ou autre. Ils cherchent l'accès au présent. Les enfants vous le donnent sans passer par la spiritualité bouddhiste, hein. Ils vous le donnent directement, c'est-à-dire qu'ils vous ancrent dans le présent, parce que si vous êtes en interaction avec eux, si vous jouez avec eux, si vous riez avec eux, si vous êtes là, c'est pas très intellectuel, c'est pas très théorique. Les soucis doivent être un peu suspendus, sinon vous pouvez pas jouer. Et puis vous redécouvrez plein de choses, le vent dans les feuilles. Les enfants remarquent les hélicoptères ou les avions dans le ciel, alors que vous ne les voyez plus depuis longtemps. Donc c'est ça un peu cette idée là. Toute la première partie de mon roman, c'était vraiment de faire ressentir cette redécouverte du monde avec un nouveau-né. Voilà.
Il y a un autre truc aussi qui est à la fois génial et terrible, c'est que quand tu remontres ou quand tu reparles à ton fils un peu plus tard des moments que vous avez passés ensemble entre ses 0 et ses 3 ans, donc il a plus aucun souvenir, alors que toi on a vraiment la sensation que ça prend quasiment un tiers de ton bouquin, donc c'est quand même une grosse une grosse partie, quoi.
Ouais.
Ça t'a vraiment construit, ça t'a construit en tant qu'homme et en tant que père, et lui
il se souvient de façon plus consciente. Oui, il me l'a redit d'ailleurs après la lecture du livre. Il m'a dit c'était intéressant pour moi de lire Avignon, mais c'est une autre planète, enfin, je sais pas, j'ai aucun souvenir, aucune image de tout ce que tu racontes. On a quitté Avignon, il avait 2 ans, 3 quarts, il a tout effacé. On est allé vivre en Bourgogne, à la campagne. Bon, c'est comme ça.
Ça t'a pincé un peu quand...
Non, parce que mon hypothèse, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que j'appelle ça la soute. C'est qu'il y a des souvenirs qu'on n'est pas capable de se remémorer, sont quand même incorporés. Notre passé le plus ancien, mais ça c'est pour chacun de nous, je pense que l'être humain est fait comme ça, notre passé le plus ancien, nous ne sommes pas capables, il n'appartient pas à ce qu'on appelle la mémoire volontaire, à ce que les neuroscientifiques appellent la mémoire volontaire, c'est-à-dire à ce qu'on peut reconstituer par une activité consciente. Néanmoins, il est forcément là. Alors sans doute dans des zones de mémoire involontaire, dans notre manière de réagir aux odeurs, de nous mouvoir, de réagir aux saveurs, et je pense aussi que dans cette soute, y a le lien, il y a le lien père-fils quelque part dans cette soute. C'est-à-dire que non seulement Avignon, les odeurs, les lumières d'Avignon, etc., sont forcément là quelque part, mais aussi cette expérience d'une proximité, parce que voilà, il y a quelque chose qui s'est noué. Et c'est comme l'amour, les choses se nouent, mais on n'en est pas toujours conscient. Voilà, donc c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc pour moi, c'est pas perdu. C'est pas parce qu'il n'en a pas de souvenir conscient que l'expérience était inutile ou qu'elle est complètement effacée.
Ok. Il y a autre chose, moi, qui m'a plu dans cette partie, c'est que tu aussi tu donnes pas mal de à lire de qui tu es. En dehors de ton rôle de père, il y a notamment tout ce passage avec ton vieux pote Antoine où on sent que t'as un peu c'est ton passé de mec en fait, tout simplement, qui ressurgit à un moment donné dans ta vie de père. Mm-hmm. Où vous finissez par aller vous balader à moitié bourré
complètement bourré au Mont Ventoux, ouais.
Au Mont Ventoux, en voiture, en Twingo.
C'est ça. Oui. Bah, comme je disais, j'ai eu une adolescence un peu agitée que je raconte dans un autre roman qui s'appelle Quand j'étais Nietzschéen. Donc j'ai raconté ça en détail. Et le fait de quitter Paris aussi m'a aidé à mettre un peu à distance les bêtises de jeunesse, l'alcool, des potes extraordinaires, mais avec qui la vie devenait quand même très désordonnée, quoi, très agitée. On a tous ça, hein, je pense que beaucoup de gens ont ça. C'est dans une vie, il y a un peu la période des copains, on l'a plus tellement, je pense, à 40 ans, ça, d'ailleurs. Et puis les fêtes des gens de 40 ans sont un peu plus glauques, non, c'est vrai, parce mais oui, parce qu'il faut pas avoir de crainte sur le réveil du lendemain. Voilà, c'est pour il faut partir à l'assaut de la nuit complètement. Et quand on commence à avoir des enfants, des obligations, des contraintes professionnelles, etc., on va se limiter, on va se modérer. Et il y a une certaine expérience de l'expédition nocturne qu'on n'a plus. Voilà, donc je raconte effectivement un moment où ça revient. Mais de manière générale, dans cette vie un peu précaire que je raconte à Avignon, il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de place pour des divagations, des errances, des expériences, non professionnelles, enfin de contemplation ou d'expérimentation.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Et c'est vrai que la deuxième partie, enfin dès la deuxième partie en fait, où tu racontes, tu as quitté donc la maman de ton premier fils, et en fait tu bascules dans une autre vie où tu trouves une nouvelle femme, et en fait on sent que là c'est vraiment le début de la vie adulte pour toi. Et...
Ouais. Oui, alors le livre est très construit, hein, il est en trois parties, alors les parties sont espacées dans le temps, ouais. et effectivement il y a un saut. Entre la première partie, c'est Avignon, 2 ans et demi, ce huis clos d'un couple avec un enfant qui n'est pas, qui va pas à la crèche, il y a pas de nounou, on s'en occupe nous. La deuxième partie, qui s'appelle 3, c'est une configuration à 3 enfants qui arrive assez vite avec une famille recomposée, c'est à Paris et ça correspond à une période de vie très différente puisque je suis rédacteur en chef de Philosophy Magazine. Et donc c'est une proposition qu'on m'a faite, hein, de créer ce journal en 2006. C'est une proposition qui se refuse pas, c'est une aventure extraordinaire et je regrette pas, mais tout d'un coup là il y a une vie de bureau, il y a une vie professionnelle qui est chargée, les soucis d'argent sont effacés et ça c'est pas mal, surtout quand on a plusieurs enfants, parce que ça finit par aigrir par devenir aussi une préoccupation un peu dévorante, l'argent quand on a un enfant et qu'on sait pas comment lui acheter des chaussures ou les habits pour enfants, enfin que tout pose un peu problème. C'est source vraiment d'inquiétude. Donc effectivement, CDI, salaire qui tombe régulièrement, une sécurité matérielle, une vie parisienne, on va dire classe moyenne, voire classe moyenne supérieure, tout d'un coup on change complètement les paramètres. Et je raconte cette expérience. Alors là, je dirais que on retrouve les enfants le soir, on s'occupe de la nuit, le matin, c'est ça que je raconte. Et puis pendant des moments un peu privilégiés que sont les vacances. Alors je raconte des vacances. Mais je raconte la proximité avec eux lors de vacances en Grèce ou au Maroc. Là, je dirais qu'on est dans une expérience qui est beaucoup plus banale, en fait, je pense, du vécu de toutes les familles où les parents travaillent et où on a des enfants et où en plus on a des difficultés qui peuvent être liées à la famille recomposée. Et où, en fait, c'est cette période de la vie entre 30 et 40 ans où on est sursollicité parce que c'est là qu'on doit essayer de poser les jalons de sa vie professionnelle. Bon, avant 30 ans, on a un peu le droit de faire n'importe quoi, pas complètement, mais disons qu'on... Voilà, entre 30 et 40 ans, c'est pas mal de démarrer quelque chose. mais là, faut s'y mettre, du coup, faut retrousser ses manches. Donc, il y a une exigence sur le front professionnel qui se durcit. Et puis, si on a des enfants bas âge, une exigence sur le front familial, sur le front de la puériculture qui se durcit aussi. Et donc, tout arrive un peu en même temps. Les enfants, l'amour, l'expérience de la séparation, c'est un peu une vie sans interstice, c'est une vie haletante. Je pense que beaucoup, beaucoup de gens sont projetés dans cette vie-là. Ils l'ont pas toujours bien voulu ou ils ont pas toujours compris ce qui allait se passer. Donc je raconte vraiment ça. Je raconte beaucoup, je parle beaucoup des fatigues aussi qui sont liées à. Enfin, j'ai fait plusieurs chapitres, mais un chapitre en particulier vraiment sur j'appelle ça l'époque des fatigues. Oui. Ouais, l'époque des fatigues, parce que il y a 3, 4, 5 réveils la nuit, qu'il faut assurer, qu'il faut emmener les enfants faire pipi, réchauffer les biberons. Si tous ou s'ils sont malades, les nuits peuvent devenir complètement infernales. S'ils doivent aller vomir, ce qui est bien, c'est que dans ces périodes avec les enfants en bas âge, ils ramènent de l'école maternelle des petites maladies qui passent, qui circulent dans la famille et qui font que tout le monde peut être assommé, tout le monde a la fièvre, tout le monde vomit. Donc il y a un côté bateau dans la tempête. C'est à la fois une expérience domestique ou bourgeoise et en même temps j'ai l'impression qu'un foyer devient une sorte de coquille de noix embarquée dans une tempête. Bon, c'est ça que j'essaye de raconter, en tout cas.
Tu racontes aussi la double culture, parce que ta compagne est italienne.
Oui.
Et il y a notamment une partie où tu racontes la différence d'éducation entre les enfants, et notamment au parc, c'est ça, si j'ai mon souvenir, où...
Oui.
Les différences d'éducation entre les enfants français et à l'italienne, quoi.
Oui, il y a plein de différences. Je raconte, effectivement, mon épouse est italienne, et on est un foyer vraiment bilingue, au sens où elle parle toujours en italien à la maison et moi toujours en français. Et les enfants sont bilingues. Et alors, c'est proche, de l'Italie, on peut dire culture latine, sud de l'Europe, mais il y a de vraies différences culturelles fortes. Et par exemple, un truc amusant, c'est qu'un conseil que les parents italiens donnent toujours à leurs enfants, c'est « fatti furbo », c'est-à-dire « sois fourbe », « sois rusé », « sois fourbe ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une éducation à, il y a une sorte d'éducation à la ruse. En fait, les Français, je sais pas s'ils ont eu la tête pourrie par Françoise Dolto, mais ils sont dans la sollicitude, dans la compassion. Et donc, y a vraiment, l'enfant tombe, on se précipite avec des granules d'arnica. On a toujours une espèce de volonté thérapeutique et compassionnelle. On écoute l'enfant quand il se plaint. On l'invite même à aimer se plaindre parce qu'on l'écoute tellement bien que on en fait une sorte on fait des gamins des grands rhétoriqueurs, c'est-à-dire un gamin italien de 5 ans et un gamin français de 5 ans, vous les mettez côte à côte, c'est sidérant. Le gamin italien est très dans l'action, dans l'expérience directe et la confrontation. Il va aussi assez volontiers se battre ou aller, pas se battre, mais aller au contact, disons, aller au contact. Se battre, ce serait lui prêter des intentions méchantes. C'est pas méchant, c'est juste qu'il y a ce côté très direct de l'expérience. Un enfant français va commencer, c'est déjà un casuiste, un juriste, un avocat, il fait des plaidoiries pour pas prendre son bain, etc. Donc c'est parce qu'on cultive, avec notre système de compassion, d'écoute et de parole, on cultive ces aspects-là. Et donc, effectivement, si un enfant au parc arrive et qui s'est fait tabasser, ou etc., le parent italien va dire fati furbo, c'est-à-dire s'il est plus fort que toi, tu peux l'avoir, mais tu peux l'avoir par la ruse. C'est pas, voilà, c'est ça, c'est alors que le parent français va dire mais non, il faut pas se battre, il faut aller le dire à la maîtresse, ou il faut discuter, il faut éviter par la parole la confrontation. Gna, 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 gna. Non, c'est fati furbo, c'est emploie tous les moyens, quels qu'ils soient. Pour t'en sortir, t'es plus malin que lui. Si tu peux pas l'avoir par la force, tends-lui un piège. Voilà. Et je trouve que c'est assez drôle. C'est un peu machiavélique aussi, mais que ça fait. En fait, les enfants français, si c'est à grands traits, hein, ce que je dis, mais
oui.
C'est à grands traits, c'est des caricatures. Mais les enfants français ont une psychologie à 5-6 ans. Les enfants italiens ont un caractère. Voilà, ce serait ça le...
Ok. Et comment t'as fait, toi, pour composer entre ces deux éducations?
Bon, ils se débrouillent. Non, ils se débrouillent. Ils naviguent entre les deux paradigmes. Mais on va apprendre à... Ouais, on... C'est cette idée de... Moi, je pense que cette hypertrophie de la psychologie chez les Français, c'est une maladie tardive. Je pense que ma grand-mère était née en 1910, elle avait encore un caractère. Je pense que... Je sais pas ce qui a créé ça. J'imagine que c'est dans l'après-Seconde Guerre mondiale, mais on s'est mis à aimer la rhétorique et la psychologie et la compassion, mais c'est vrai que...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Il y a quelque chose d'un peu plus direct, d'un peu plus... Moi, j'aime bien l'idée d'avoir affaire à des gens qui ont du caractère. C'est caricatural, ils se mettent à hurler, on a l'impression d'être dans un film ou dans une comédie. Voilà. Les scènes de rue en Italie, elles sont animées. C'est animé parce que les gens ayant du caractère, ils vont se lancer dans des tirades, des algarades, ils vont s'injurier. Voilà, ça rend la vie. Il y a quelque chose d'un peu vital, hein, voilà, là-dedans.
Il y a toute une grosse partie, notamment sur ta fille, qui est donc ton troisième enfant, qui a l'air d'être.
Oui, c'est le sommet du caractère. Oui, c'est ça. C'est le sommet
du caractère. Tu racontes, tu te bats avec elle tous les matins parce qu'elle veut à tout prix que sa couette, c'est ça, soit parfaitement. Sa tresse soit parfaitement
bien
alignée. Oui. Si ça lui va pas, elle enlève tout, quoi.
Oui, c'est pas qu'elle veut pas aller à l'école, c'est qu'en fait, il y a toujours un truc qui va pas au niveau matériel. Soit la coiffure est mal faite, la tresse est mal faite, soit les chaussettes sont mal mises, en fait. Et puis alors, quand elle se met à résister, je me retrouvais obligé de l'emmener à l'école vraiment de force en la portant au-dessus de ma tête, quoi. Parce qu'elle se débattait des pieds et des mains, elle mordait, enfin, impossible de lui faire entendre raison. Ça, c'est le caractère. J'ai jamais eu ce type de souci avec mes fils. J'ai quand même 4 fils. J'ai jamais eu de problème on va dire d'opposition aussi frontaux qu'avec ma fille. C'est-à-dire que je crois qu'il y a quelque chose qui est générationnel, comme si on vit dans la génération qui vient, ce sera celle des femmes, c'est certain.
Je pense qu'il y a une transmission aussi, il y a une forme de mimétisme avec ta compagne, ta femme.
Je sais pas, mais je vois des fils prudents, attentionnés, soigneux, pour certains, pas tous, mais quand même, un peu un télo, réfléchis, capable de maîtriser leurs pulsions. Une fille totalement explosive, mais la en fait, si je sors de ma famille et je regarde les quand on fait des anniversaires, les anniversaires de ma fille où arrivent les autres petites filles de l'école sont beaucoup plus turbulents que les anniversaires de garçons. Les garçons vont se mettre avec je sais pas quoi, des cartes, un jeu de rôle, ils vont faire des jeux déjà un peu intello sophistiqués. Les filles vont saccager l'appartement, et donc je me dis que là ou alors ça a toujours été comme ça, ou alors le 21e siècle sera féminin.
Ok.
Bah oui.
Tu parlais aussi de tout à l'heure, t'évoquais la famille recomposée. Tu parles aussi d'une partie que moi j'ai trouvé très touchante, en fait, où tu retrouves ton fils, ton premier fils, donc, et tu parles notamment de dissociation, en fait. T'as une forme de dissociation où t'es un peu perdu, en fait, à chaque fin de week-end ouais. avec lui, de te sentir, enfin, de le laisser repartir, en fait.
Oui. C'est pas facile, la famille recomposée également pour il vaut mieux se dire que c'est un truc qui marche pas bien que d'être dans l'utopie du ça va très bien se passer parce que on est des gens intelligents et qu'on s'aime et que ça va marcher. En fait, il vaut mieux se dire non, ça va mal se passer, comme ça au moins on a que des bonnes surprises. Et je dirais que ce qui est pas facile à vivre, c'est pas forcément facile pour un nouveau conjoint d'accepter les enfants d'une précédente union, je veux dire pour une femme ou un homme c'est pas forcément simple. Ça se fait parfois bien, mais c'est aussi pas facile pour celui qui a eu des enfants avant, parce que quand l'enfant de l'union précédente arrive, il est en demande d'attention, de disponibilité, mais on peut pas lâcher complètement les autres. Et donc on est dissocié parce qu'on se retrouve entre deux régimes de paternité, un peu, ou entre deux familles, entre deux régimes de paternité. Comment bien profiter de la présence de l'un sans léser les autres. Si les autres sont plus petits, en plus les nouveaux a priori sont plus petits, ils ont besoin de soins constants, de couches, de biberons, d'attention. Il faut surveiller si c'est l'époque des premiers pas, de 3 ans, c'est vraiment une attention. Ça, je décris beaucoup ça aussi, cette attention très constante qui doit donner aux enfants entre 2 et 4 ans et qui oblige à une forme de vigilance. On doit toujours savoir où ils sont dans la pièce, ce qu'ils font. Il y a des prises électriques, il y a la casserole sur le feu. Il faut être attentif. C'est sans répit, en fait.
Ça a duré longtemps pour toi, en plus.
Oui. Ayant eu 5 enfants, je n'ai pas, sur ces 18 années que couvre le roman, on peut dire qu'il y a toujours eu des couches à changer, quasiment. Toujours. C'est-à-dire, sur 18 années, j'ai pas cessé de babysitter. Voilà. Et donc, en même temps, faut être disponible pour les enfants, qui grandissent et qui ont des besoins différents. Par exemple, il est pas facile de trouver une activité commune entre des enfants de 2-3 ans et un préado de 11-12 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Le préado, il a pas forcément envie d'aller au parc. Si on veut aller au cinéma, il y a pas forcément de films sur lesquels ils vont s'entendre. Donc tout ça, ça crée de la dissociation. Ouais.
T'es pas tendre du tout avec toi-même d'ailleurs, parce que tu racontes un moment où tu mets une claque à ton premier fils,
Non,
mais j'ai trouvé ça hyper courageux de ta part, parce que en fait tu montres aussi les mauvais côtés de la paternité, et c'est des trucs qui sont, je pense, durs à accepter, tu vois.
Oui, c'est une claque qui arrive très vite en réaction à une injure. Après, chacun a ses limites. Pour moi, je suis d'un naturel assez libertaire. J'exerce plutôt moins d'autorité que ma femme.
Ça se sent dans le bouquin.
Non, mais parce que c'est mon naturel, c'est que je j'ai reçu une éducation sans doute un peu marquée par les années 70 où voilà, on pose pas tout le temps du cadre. Et j'ai peut-être ça, j'ai tendance peut-être à le reproduire un peu, mais c'est vrai que une limite, c'est du côté de l'injure. Si un enfant si un enfant vous frappe volontairement ou vous injurie, j'aurais tendance à pas laisser passer, à me fâcher assez fort. Moi, cette claque, évidemment, je la regrette. Hein, je vais pas conseiller de mettre des claques, mais ce qu'il faut considérer, c'est que. Mais je raconte la scène. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut considérer, c'est que la vie avec les enfants, c'est quelque chose de très. Ça, j'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Très concret, c'est-à-dire que c'est très corporel. Les enfants, on les lave, on change leur couche, on leur fait des câlins, on leur fait des bisous, on joue avec eux, il y a des petites bagarres, c'est très très physique. Et du coup, le fait qu'il y ait un coup, c'est vraiment regrettable, mais ça arrive dans un flux où c'est pas si vous mettez une claque à votre collègue de bureau, c'est un événement. Je veux dire, c'est pourquoi ? Parce que le code, c'est que les corps sont distants. On met pas.
Oui,
on ne touche pas ses collègues de bureau. C'est quoi que quelle que soit la forme de contact avec le collègue de bureau, il ressort ça ressort déjà du droit du travail. Enfin, avec les enfants, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le contact, le contact est permanent. Et il peut être tendre, il peut être tendu, il peut être espiègle, il peut passer par la nourriture, par la propreté, par plein de choses, mais c'est très très physique, voilà. Et ça, je voulais vraiment le faire sentir. Et c'est une grosse différence entre le fait d'être parent ou d'être éducateur, je veux dire d'être puéricultrice dans une crèche, d'être maître ou maîtresse d'école, instituteur. Enfin, le parent, lui, il est dans cette proximité physique incroyable. Et c'est ça la paternité.
Parfois on dérape, quoi.
Oui, mais ça fait partie d'un. Non, je vais pas faire l'éloge de la maltraitance, hein, mais ça fait partie d'un quotidien où le rapport est constamment. On fait pas que discuter, quoi. Voilà. C'est pas intellectuel. Le lien de filiation est pas intellectuel. C'est un lien très concret. Et du coup, j'ai écrit un roman et pas un essai. Hein. Mmh. C'est-à-dire parce que j'ai pas une théorie générale, j'ai plutôt une expérience longue. Et cette expérience, c'est une expérience vraiment incarnée. Une éditrice là de la maison d'édition, quand elle me dit, c'est bizarre, de la première à la dernière page de ton livre, sur 500 pages, j'ai vu de la peau. Elle me disait, moi je lisais et je voyais de la peau. Mmh. Et ça, je me suis dit, ah tiens, ça c'est exactement ce que je voulais.
Ah, c'est cool.
Je vois de la peau, c'est ça que je voulais, c'est de dire, bah voilà, ça passe par les contacts des peaux. Ouais,
ouais, je vois ce qu'elle veut dire. Ouais,
ouais, ouais.
Y a à la fois, donc t'as des tout petits chapitres hein, qui font parfois deux pages et qui relèvent de l'anecdote et tout, et il y a vraiment des moments plus dense, j'ai trouvé, notamment quand tu parles de la relation de ton deuxième fils et notamment de son intelligence et des échecs.
Oui.
J'ai trouvé que ce passage-là était... Enfin, j'ai trouvé ce passage-là fabuleux, en fait, de la façon dont tu racontes ton fils, un peu comme... Tu t'observes ton fils, en fait, tu vois, de l'extérieur. Ah. Comment tu
ça, c'est un passage délicat.
Un monstre chanceux, tu parles de lui, oui. comme d'un monstre chanceux à la fin, j'ai trouvé ça.
Oui, ça, c'était un passage très délicat à écrire. Parce que j'ai un fils qui a une vraie précocité intellectuelle, je pense.
Oui, ça. La façon dont tu le décris.
Qui a une courbe d'apprentissage atypique. Qui a sauté une classe, mais c'est pas seulement la performance scolaire, qui a vraiment une courbe d'apprentissage atypique pour qui. C'est vraiment posé la question de savoir où le mettre à l'école, etc. Parce que. La question pour moi était difficile de raconter ça parce que forcément quand on est parent et qu'on a un enfant qui donne des signes d'intelligence précoce, ben on est fier. Enfin, et la vraie question de ce chapitre, merci si tu y es sensible et que tu le trouves comme un beau chapitre, mais pour moi c'était de pas avoir l'air de me vanter à travers l'intelligence de mon fils de ma propre intelligence. En fait, il a brûlé toutes les étapes de l'apprentissage. Je me souviens qu'une fois, il était très demandeur à deux ans et demi de mathématiques, d'addition, de soustraction, de multiplication. Il commençait à comprendre les divisions. Et je me souviens une fois, il y avait la belle-mère qui se fâchait, italienne, qui se fâchait en disant, mais ne lui apprenez pas ça. Mais le problème, c'est que c'est lui qui était demandeur. Ne lui apprenez pas ça, c'est pas de son âge. Vous allez lui dérégler le cerveau. Enfin, c'est pas possible, etc. Et puis je dis oui, c'est vrai, c'est peut-être un peu comme si on lui apprenait les équations du premier degré. Et après mon fils me lâche plus,
forcément.
Me lâche plus. Il vient après la discussion, il voit que c'était une discussion entre adultes, il vient après, papa, c'est quoi les équations du premier degré là? Non, il me dit les équations du degré là, le truc que t'as dit, c'est quoi ça? C'est quoi 2 ans et demi? Je fais, mais non, écoute, c'est pas de ton âge. Non, mais c'est quoi? Non, c'est pas c'est quoi? Bah, je fais, bah écoute, c'est simple, c'est par exemple X plus 1 égale 2. Il me fait, bah, papa, 2. C'est facile, X égale 1. Et.
C'est la vie, wow.
Et là, je me dis, bon, écoute, on arrête. Et bon, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il est rapide. Alors, ce qui est intéressant avec un enfant comme ça aussi, c'est qu'il est capable, et moi, je me suis beaucoup servi de ça dans des scènes du roman, comme il est capable de remettre en question, enfin, c'est-à-dire d'avoir la petite phrase qui fait que le parent paraît moins intelligent que son fils. C'est-à-dire, il est capable d'avoir la petite phrase
qui remet tout en contexte.
Et donc, régulièrement, je m'amuse, c'est un procédé aussi narratif, c'est que le père est là, il dit un peu des conneries, etc. Et le fils le reprend parce qu'il est plus malin. Voilà, donc c'est une vraie question quand on a un enfant comme ça qui apprend vite. D'abord, il y a une question, c'est est-ce que vous mettez de l'essence dans le réservoir, c'est-à-dire est-ce que vous lui procurez des livres et des connaissances parce qu'il est en demande, ou est-ce que vous freinez un peu et vous vous dites bah non, mais va jouer au foot quoi, c'est bon maintenant. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est qu'il en a pas forcément envie d'aller jouer au foot, ça l'intéresse pas forcément. Donc est-ce qu'on l'oblige à faire les mêmes activités que les autres pour qu'il soit en gros, est-ce qu'on veut travailler absolument sur la sociabilité? Il n'a aucun problème de sociabilité. Alors ça, c'est le truc chouette. Comme il a toujours été élevé avec d'autres enfants, que c'est une fratrie, il n'a aucun problème de sociabilité. Mais est-ce qu'on lui dit, voilà, fais comme les autres, ou est-ce qu'on lui donne les connaissances? Voilà. Et les échecs, ça fait partie de ça. Il a voulu jouer aux échecs. Moi, je ne suis pas du tout joueur. Et il m'a emmené dans cette aventure. Et il a... On s'est mis à jouer vers l'âge de 6-7 ans, mais comme on n'avait jamais joué, jamais pris de coup et tout, on s'est mis aussi une fois par semaine à regarder ensemble et à essayer d'interpréter ensemble une partie, alors des parties classiques, hein, des parties de Karpov contre Kasparov, Kasparov contre Deep Blue, vraiment des parties classiques. Et là aussi, il a progressé très vite, à tel point qu'à un moment, il a remporté une compétition, et je lui ai dit, mais est-ce que tu veux... On l'avait inscrit, il n'était pas en club. Et puis je lui ai dit, mais est-ce que tu veux aller plus loin dans les échecs? Parce qu'à ce moment-là, comme il avait remporté cette compétition, il y a un club qui lui a proposé un abonnement gratuit. Et puis il me dit, bah non, il me dit, papa, tu vois bien, enfin les échecs, c'est un jeu de société, bon c'est bien, mais j'espère que j'ai quand même quelque chose de plus intéressant à faire dans ma vie. Là, il avait 7 ans.
Okay.
6 ou 8 ans. Et donc, écoute, je t'approuve.
Oh la vache, d'accord. Faut suivre.
Oui, c'est bien. C'est, ouais. Ça crée des conversations intéressantes, ça donne du relief au roman. Mais vous voyez, ce qui s'exprime et ce qu'on sent dans l'entretien et que j'ai essayé d'effacer dans le livre, c'est la question de la fierté. Parce qu'évidemment,
ça marche très bien. Hein. Franchement, tu le mets très très bien en perspective.
Oui, parce que tous les enfants sont pas comme ça, et parce qu'un enfant qui a cette dynamique d'apprentissage là, en fait, il vous remet en question. Hein. C'est-à-dire que déjà le système scolaire, en fait, en France est très 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 bien. Moi, je dois beaucoup à l'école. Je fais pas du tout partie des critiques de l'école ou des grincheux. J'ai pu sortir du marasme dans lequel je suis né. J'ai grandi grâce à l'école et grâce aux bons résultats scolaires. Donc, j'aime beaucoup l'école. Mais c'est vrai qu'elle ne sait pas gérer...
Le fiston, il doit s'emmerder là-bas. Quoi.
Alors, on a trouvé un moyen, mais elle ne sait pas gérer... C'est une courbe de Gauss. C'est-à-dire que ce soit sauter une classe ou redoubler, en fait, c'est un constat d'échec. Les parents sont... dévastés quand les enfants redoublent et ils sont heureux quand ils sautent une classe. Mais au fond, c'est juste que le rythme d'apprentissage, il est calqué sur une norme, et ça va très bien pour ceux qui sont au milieu. Mais il y en a qui sont un peu plus lents et d'autres qui sont plus rapides. Et ceux-là, ils vont se retrouver aux franges de l'institution, dans la marge de l'institution. Et l'institution sait pas très bien quoi en faire. Voilà. Donc c'est toutes ces questions qui sont posées par la précocité.
Je voulais parler avec toi aussi de ce fameux, de ce passage où tu sors de l'hôpital lors de la naissance de ton dernier fiston.
Ouais.
Et où tu passes devant
l'école.
Devant l'école que t'as cofondée quelques mois auparavant.
Ouais. Ouais.
Et où tu te rends pas compte, en fait, enfin, tu y passes un peu machinalement.
Ouais. C'est ça. Alors, c'est vrai que dans le roman, c'est vraiment, le sujet, c'est la paternité, la relation avec les enfants. Donc, ce qui n'est pas raconté, mais qui apparaît un peu comme à l'horizon, en toile de fond, c'est la vie professionnelle et la vie du couple, l'amour. Mais ça apparaît vraiment, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la paternité. Alors, du coup, il y a des affleurements de vie professionnelle. Et c'est vrai qu'on devine, mais je ne m'étends pas là-dessus, que je fais deux choses. Je suis aujourd'hui directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, donc c'est très prenant, mais je n'en parle pas du tout. Il y a une allusion, il y a un moment. Et j'ai mené un autre projet à bien, qui était un projet qui me tenait à cœur, sur lequel d'ailleurs je ne me rémunère pas. Hein, c'est pas un projet, c'est vraiment un projet passion, qui est de créer une école d'écriture. Et ça, on y a beaucoup travaillé avec Élise Nebout, qui est la cofondatrice, et qui est la directrice à plein temps. On y a travaillé. Et puis, l'idée, donc, c'est que c'est un lieu rue Dante, mais il y a aussi beaucoup d'enseignements à distance désormais, et par la force des choses aussi. C'est
le choix.
Où il y a aujourd'hui une centaine d'écrivains par an qui enseignent, et puis 2500 participants à des ateliers d'écriture. En fait, c'est un lieu sur la transmission de l'art d'écrire. Complètement dévoué à la transmission. Et le projet prend forme, et l'école ouvre ses portes le 30 janvier 2017. Le 30 janvier 2017, en fait, le matin, moi je sors de la maternité, où j'avais passé la nuit pour la naissance de mon dernier enfant, et c'était une nuit blanche, je quitte la maternité, je pense, vers midi, 11h30, midi, quand tout le monde est en sécurité, quoi, quand la mère et l'enfant dorment, en fait, quand tout va bien, quoi, enfin. Là, je crois que le rôle du père s'arrête et puis il faut aller se reposer. Bon, et donc je sors de là, je prends un Vélib, je descends. Donc c'était la maternité de Port-Royal. Je descends le boulevard Saint-Germain. Je prends la rue des Écoles ou le boulevard Saint-Michel. Non, je prends le boulevard Saint-Michel. Je le descends. Je tourne au niveau du boulevard Saint-Germain. J'oblique vers la Seine et sans y réfléchir. Et puis là, je vois à travers une vitrine Yannick Enel, un romancier, qui est en train de parler à 7-8 personnes. Et en fait, je comprends pas tout de suite ce qui se passe, en fait. Je suis tellement hébété, parce que je connais Yannick Enel, je reconnais... Et je comprends que c'est l'école qui vient d'ouvrir et que c'est le premier cours. Et donc, ce qui est assez beau ce jour-là, c'est que c'est un jour qui a deux épaisseurs, enfin, où il y a deux choses qui... Il y a deux naissances, il y a l'école, qui est le premier cours de l'école Les Mots, et puis la naissance d'un enfant. Mais ça va plus loin. Parce que j'envoie un SMS à la famille pour dire que la naissance a eu lieu. Et je reçois un message de mon beau-père qui dit le 30 janvier, quand même, quelle date? Je fais, quelle date? Comment ça, quelle date? Et il me dit, c'est le jour de la naissance de ton père. Je fais, et comme j'ai dit, pour moi, mon père, enfin, la question de la paternité tourne beaucoup autour de mon père, absent, mort quand j'avais 11 ans. Donc j'ai le dernier de mes enfants, de mes 5 enfants, le jour de la naissance de mon père, le 30 janvier. Et là, m'éclate avec une évidence le sens du nom et du prénom de ce dernier enfant, qui s'appelle Pietro Stelio Lacroix. Donc Pietro la pierre, Stelio la stèle, Lacroix, donc la pierre, la stèle, la croix. En fait, dans le nom, les latins disent omen nomen, c'est-à-dire omen nomen, c'est le nom fait le destin. Omen nomen, c'est ça, un nom, un destin. En tout cas, il a dans son nom la terre, la stèle, la pierre, la croix. Il y a l'évocation presque directe de cette idée que, au fond, pas simplement d'une mort. En fait, ce que cette date vient et son symbolisme vient faire comprendre, c'est que toute naissance, enfin, quand vous mettez un être humain au monde, vous condamnez un être humain à mourir. C'est-à-dire, vous lui offrez la chance. À mon sens, c'est une chance. Moi, j'aime la vie, donc vous lui donnez la chance de vivre. Mais bien sûr, vous mettez au monde un être mortel. Vous condamnez quelqu'un à mort en même temps que vous le condamnez à vivre. Et donc, il y a une ambiguïté, c'est que toute naissance signifie une mort. Et on le sait. Enfin, ça, c'est le côté tragique, mais très beau. C'est pour ça que cette histoire de puriculture, de paternité et tout, c'est important. C'est que c'est pas simplement des affaires de couches et de biberons, c'est métaphysique en fait. C'est-à-dire que c'est notre relation à la vie et à la mort qui se joue là. Et donc, là, j'en avais une illustration concrète, incarnée, directe, à travers cette date et sa symbolique. Ouais.
Tu parles aussi plusieurs fois, je pense à deux ou trois reprises, justement, du fait de, en tant que père, être en processus de création, et notamment, t'écris un bouquin durant la...
Bah, j'écris toujours un bouquin.
C'est vrai que tu...
J'ai publié 20 romans et essais, donc je suis toujours en train d'écrire un bouquin. J'ai publié le premier en 98, il y a eu très peu d'années sans publication. Donc je suis toujours en train d'écrire un bouquin, c'est mon mode de vie, ouais, ouais.
Je voulais te parler de ça par rapport au fait de justement être en train de créer pendant que ta femme est elle-même ou ta compagne est elle-même en train de créer la vie, quoi. Il y a un truc un peu.
Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé que les périodes de grossesse étaient des périodes de très grande fécondité sur le plan de mon écriture personnelle, parce que on joue un peu sa peau. Enfin, voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. On joue sa peau, c'est-à-dire que dans cette attente de l'enfant, il se passe beaucoup de choses en termes de fantasmes, de réflexions. On est remué. Et si on a une pratique artistique, à mon avis, on est galvanisé. Enfin, on est enivré ou inspiré dans sa pratique artistique. C'est pour ça que, mais ce que j'essaie de faire tout au long du livre, c'est de montrer que procréation et création ne s'opposent pas. Qu'on peut être un parent et un parent attentif et créer. Au fond, les gens qui vous disent qu'ils n'arrivent pas à écrire parce que leur boulot leur prend trop de temps ou leur famille leur prend trop de temps, c'est juste qu'ils n'ont rien à dire. Non, c'est un peu méchant de l'exprimer comme ça, mais quand un livre, enfin, quand un livre est là, quand une peinture est là, quand vous avez quelque chose à faire, vous le faites. C'est pas qu'ils n'ont rien à dire, c'est qu'ils ont peut-être une bonne idée, mais que s'ils le font ou que s'ils le font pas, au fond, c'est pareil. Et bon, bah, du coup, ils le font pas.
On sent qu'il y a un besoin de sortir tout ça de toi, de le mettre dans ce livre, justement.
Oui, oui, oui. Mais je veux dire aussi, je pense pas par rapport à des gens qui seraient... Là, je m'adresse aussi à des gens qui seraient un peu dans des métiers créatifs ou et qui craindraient que les enfants ralentissent la création. Ben, moi, j'aurais tendance à leur dire, c'est le contraire. Ça va l'accélérer, ça va lui donner de la densité, de la force.
Tu termines le bouquin par quelques séquences un peu plus méta où tu es en train de te demander comment tu vas faire pour terminer ce livre.
Oui, oui.
Et en fait, j'ai trouvé que vraiment que la fin était très touchante parce que tu boucles le bouquin par une soirée avec ton grand-fils qui est devenu grand maintenant, qui a 18 ans à l'époque.
Au moment de la soirée, ouais.
Alors, je sais pas si tu as vu ce film Boyhood.
Non.
Je t'invite à regarder, je vous invite à regarder si vous écoutez, qui est un film de Richard Linklater, qui a filmé son film sur 12 ans de temps. Donc un petit garçon de ses 6 à ses 18 ans, le même garçon, avec les mêmes parents, les mêmes acteurs. Ah, donc, ouais. Et il les suit comme ça pendant 12 ans. Et en fait, j'ai eu un peu cette sensation-là en fait, en lisant la fin de ton bouquin, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait... l'air de rien, je connaissais Bastien depuis sa naissance. Et c'était hyper intéressant et touchant, en fait, de voir
ce
qu'il est devenu plus tard, quoi.
Oui, oui. Moi, j'aime bien ce que j'ai dit tout à l'heure sur la naissance et la mort qui s'impliquent réciproquement. Toute mort est précédée d'une naissance, toute naissance est suivie d'une mort. C'est quelque chose que j'applique assez volontiers dans les romans. J'aime bien que la première et la dernière page soient liées. Et que du coup, on ait l'impression quand on termine un livre que la boucle est bouclée. Et du coup, effectivement, je commence par le livre, par la naissance de Bastien, et je termine le livre par un moment passé avec lui lorsqu'il a 18 ans, c'est-à-dire là aussi c'est la fin d'un cycle, il est devenu majeur, donc mon autorité parentale, en tout cas juridique, s'arrête là. Voilà, c'est maintenant... puis avec cette comment état d'esprit un peu libertaire, je pense que je peux pas faire justement de paternalisme, c'est-à-dire que c'est compliqué d'être un être humain, donc c'est à lui de je peux l'aider, le conseiller, l'accompagner, mais c'est maintenant il faut qu'il pose ses choix, c'est lui qui va décider de sa vie. Donc c'est ce moment-là, 18 ans, ben voilà, il y a encore beaucoup de fragilité, on peut aider, conseiller, mais les choix doivent être posés. Et à la première personne du singulier. Sortir de l'état de minorité, tel est le projet des Lumières. C'est Kant, hein. C'est Emmanuel Kant, mais c'est ça, c'est sortir. Être parent, c'est aussi aider un enfant à sortir de l'état de minorité. Et donc voilà, on se quitte là-dessus, et effectivement, ça boucle la boucle, puisqu'on revient au point de départ du livre.
Merci beaucoup, Alexandre. Franchement, j'invite tous les gens qui sont intéressés par, d'une manière ou d'une autre, la paternité à lire ton livre. C'est vraiment un témoignage rare et qui, j'espère, va en entraîner d'autres derrière. Parce que, comme tu dis, t'as perdu ce que t'appelles ton jeunomisme, c'est ça? Comme, les auteurs
ne mettent
jamais en scène leur paternité.
C'est ça. Ils se mettent toujours en scène comme des ados ou des amants et jamais comme des pères. Bah voilà, ça fait un livre. À un moment, je dis en blaguant comme ça, puisque dans les baux de location en France, il y a l'idée qu'il faut se conduire en bon père de famille, ce qui est un peu bizarre si on est une femme célibataire et qu'on signe un bail. Et je sais pas si ça a été retiré ou si c'est toujours dans les baux, mais en tout cas, ça a été retiré du code, je crois, mais c'est toujours dans les baux. C'est bizarre, en bon père de famille, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah voilà, donc à un moment, je m'amuse, je dis, est-ce que j'ai écrit un livre en bon père de famille? On sent qu'écrire un livre en bon père de famille, ça va pas faire un bon livre. Mais en tout cas, cette idée, c'était d'endosser complètement le regard et la perspective sur le monde du père pour écrire un roman sur la paternité.
Bah merci à toi en tout cas, c'était vraiment un super moment.
Merci.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.